Comment ça se passe à Madrid? Vous attendiez une réponse, je crois, ce week-end du déconfinement. Alors, vous êtes déconfiné ou pas?
Oui, en fait, ils ont gardé Madrid et Barcelone en confinement.
Ah.
Alors qu'il y a moins de 6 cas par jour, 6 nouveaux cas,
ouais.
Notamment sur la communauté de Madrid, c'est-à-dire sur 6 millions d'habitants. Mais ils ont joué la prudence, donc ils restent confinés sur Madrid et sur la ville de Barcelone.
C'est quoi? C'est dû en fait à la densité de la population, en fait.
À la prudence.
D'accord.
En fait, c'est dû à la prudence parce que l'Espagne, tu t'en souviens, avait un confinement qui était très très dur, beaucoup plus dur que les autres pays européens, sans sortie, sans rien. Donc là, ils avaient un petit peu lâché la bride sur les sorties, les promenades d'une heure qui sont toujours autorisées. Et toute l'Espagne est passée en phase 1, c'est-à-dire avec l'ouverture des terrasses, des bars, des restaurants. Et des commerces, c'est-à-dire la vie qui redémarre. Par contre, Madrid et Barcelone sont restés en phase 0, c'est-à-dire tout y est interdit, sauf les promenades le soir pour nous et la journée pour les enfants.
D'accord. Donc, pour le moment, une semi-liberté, on va dire.
Ouais, enfin plutôt un confinement quoi en fait. Hein, c'est encore confinement. L'Espagne est en train d'ailleurs d'étudier le port du masque dans tous les endroits publics. Mmh. Le port du masque obligatoire. Alors tout le monde l'a. On le voit dans les promenades le soir, c'est-à-dire que vraiment maintenant 100% des gens ont un masque. Mmh. De toute façon, il est obligatoire pour entrer dans un commerce alimentaire, etc. La plupart des magasins l'exigent. Et en plus de ça, le gouvernement est en train de le rendre obligatoire pour se promener dans la rue.
D'accord.
Donc c'est plutôt bien, moi je trouve, parce que c'est une prudence un peu exagérée, parce que j'avoue qu'il y a de moins en moins de cas, donc on aurait pu libérer un petit peu Madrid et Barcelone, mais ils jouent la carte de la prudence pour ouvrir après beaucoup plus rapidement, je pense.
D'accord. Madrid et Barcelone, évidemment, c'est les deux plus grandes villes d'Espagne au niveau de la densité. Après, c'est beaucoup moindre à partir de la troisième, ou pas?
Ouais, non, il y a quand même Barcelone, c'est à peu près 1 million d'habitants, donc c'est pas non plus énorme. Par contre, Barcelone a été fortement marquée par le virus. C'est vrai que la moitié des cas et des décès qu'on trouvait en Espagne se situaient dans la Catalogne. Mmh. Et donc c'est pour ça que le gouvernement autonome de Barcelone a demandé au gouvernement la prudence. En fait, c'est les gouvernements autonomes ici qui demandent à être déconfinés ou pas. Et le gouvernement qui décide en dernier recours.
D'accord.
Donc Madrid, lui, avait demandé le déconfinement, qu'ils n'ont pas obtenu, et par contre Barcelone avait joué la carte de la prudence depuis 15 jours, en demandant à rester confiné.
D'accord.
Donc je pense que ça va se libérer la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, il était convenu que toute l'Espagne passait en phase 2. Alors la phase 2, c'est l'ouverture aussi, en plus des terrasses, des bars et des restaurants à 50%, c'est l'ouverture des salles intérieures des restaurants, l'ouverture des cinémas, l'ouverture des lieux de culture. Et donc, comme l'Espagne va passer en phase 2, je pense que Madrid et Barcelone vont passer en phase 1 à partir de lundi prochain, c'est-à-dire au moins les terrasses et les commerces accessibles sans problème.
Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle donc.
Ouais, c'est plutôt bien. Ouais, c'est ce qui est plutôt bien, c'est qu'il y a vraiment très peu de cas. Il y a de moins en moins de décès. On est à peu près à 80 toutes les 24 heures, ce qui est peu pour un pays de 45 millions d'habitants.
Ouais.
Et en nouvelle contamination, je te l'ai dit au début, donc les dernières 24 heures, c'était 6 nouveaux cas sur la communauté de Madrid avec 6 millions d'habitants. Donc c'est vraiment très peu, quoi.
On a vu le démontage à la télévision de cet hôpital de. Je dirais pas de campagne, mais qu'ils avaient installé dans un grand hall. C'était un,
c'est
quoi,
c'est un. On en avait parlé sur les premières interventions radio.
Ouais. Ouais.
Et ils l'ont monté en 4 jours. Ils ont monté un hôpital de 1500 lits dans un palais des expositions.
C'est ça, voilà.
Une espèce de foire, un palais des foires, en fait.
Ouais.
Et ils ont monté ça en quelques jours. Il y avait 1500 lits, dont 100 lits de réa. Ça a été une prouesse incroyable et ça a surtout été salué pour son efficacité parce que monter un hôpital c'est super compliqué déjà en quelques jours. Mmh. Au niveau des installations, tu m'entends?
Oui, impeccable.
Ouais. Au niveau des installations, oxygène, etc. Mais en plus de ça, le faire fonctionner, ça a été un pari incroyable parce que c'était donc des équipes infirmières qui travaillaient sur un site nouveau, docteurs, etc. Et ça a super bien fonctionné.
Bien.
Donc l'Espagne, j'allais te dire, qui a été très touchée, je crois qu'au final, il y a autant de morts que la France, hein, je crois que les deux pays sont à peu près identiques, et qui a été très touchée, s'en sort pas mal. maintenant, il reste la crise
économique.
Bien que ça ne soit pas fini, ouais, économique et politique, puisque comme en France, le gouvernement espagnol commence à être très très critiqué. Mmh. Même si je trouve, moi, vu de loin, qu'il n'y a pas eu de mensonges, etc., il y a bien évidemment eu des ratés au niveau hospitalier, puisque l'hôpital n'était pas prêt non plus à affronter un choc de cette ampleur.
Bien sûr.
Donc il y a eu aussi des problèmes d'approvisionnement de matériel, il y a eu des tas de problèmes, effectivement, et le gouvernement en est tenu responsable.
Bien.
Donc les prochaines semaines, on verra un peu ce qui se passe, mais il est vrai que comme l'Espagne à un niveau, ils sont plutôt passionnés par la politique, véritablement, il risque d'y avoir des confrontations dans la rue, etc., assez fortes en Espagne, parce qu'ils n'ont pas pour l'habitude de se taire. Donc visiblement, ça risque dans les semaines qui viennent d'être assez compliqué au niveau politique en Espagne, je pense.
D'accord.
Voilà.
Bien, Fabien. Désolé hein, pour ce direct un peu. Écoute, j'ai pris l'antenne, justement pas 10 secondes avant que tu m'appelles. Voilà.
Ça m'a fait rire, mais il y a aucun souci. Je te rajoute un truc, c'est que l'Espagne n'arrête pas d'annoncer, puisque c'est un gros pays touristique, qui sont en concertation avec la communauté européenne et les pays d'Europe, c'est-à-dire France, Italie, Allemagne, etc., qui sont les gros pays européens, pour l'ouverture des frontières, pour qu'elles soient coordonnées et pour ouais. que le tourisme reprenne.
Tout à fait.
Voilà, dans le calendrier, c'est plutôt un fin juin qui était prévu sur l'ensemble de ces pays, à part que l'Italie a devancé tout le monde, ouais. puisque l'Italie ouvre ses frontières très vite.
C'est vrai, dans deux semaines, d'ailleurs, j'espère qu'on aura vendredi prochain notre ami Emma qui est à Codogno et qui en plus ouais. nous parlera, et ça j'y tiens. Je poserai quelques questions par rapport au café-restaurant, parce que eux, ils ouvrent à partir d'aujourd'hui donc les cafés et les restaurants voilà,
ouais,
en Italie.
Ouais, ouais.
Et d'accord. je sais que...
Alors, l'Espagne, où ça a déjà été fait, donc de faire par Madrid et Barcelone, ouais. ce que je t'ai dit, donc le souci que ça pose, c'est comme l'occupation est limitée à 50% pour que les tables soient espacées, le vrai problème que ça pose, c'est que dans les grandes villes, les gens font la queue pour accéder à une table en terrasse.
D'accord.
Donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde, parce qu'ici, tu sais que c'est la plus forte densité de bars et de restos d'Europe. Il y en a 1 pour 170 habitants, c'est absolument énorme comme densité, et je crois que nous, c'est à peu près 5 ou 6 fois moins en Corse, hein, pour te donner.
Ah oui, d'accord.
Oui, c'est énorme, un bar pour 170 habitants, c'est un gros chiffre, mm-hmm. et ici, donc, comme c'est vraiment culturel, le fait d'être au bar, de boire une bière, etc., il y a vraiment des queues absolument énormes. Donc, c'est le problème que ça pose, c'est qu'effectivement, comme les gens étaient privés de ça pendant 2 mois et demi, voilà, il y a un problème ensuite de gestion. Mais bon, la vie reprend le dessus petit à petit, et avec les soucis d'accord. qui s'annoncent, qu'il faut pas négliger.
Et voilà. Tu parlais des bars et des restaurants, notamment les terrasses. Est-ce que tu as le droit de t'installer en terrasse, ou c'est seulement ce qu'on appelle du pick-up, tu prends ton café, tu pars?
Non, tu t'installes.
Ah, carrément.
Effectivement, quand j'écoutais Emma, ça paraissait très compliqué en Italie, oui. et en Espagne, c'est très simple. Tu exploites 50% de ta terrasse de manière tout à fait normale.
D'accord.
Et donc, à partir de lundi prochain, ils exploiteront en plus 30% de l'espace intérieur des bars et des
réseaux.
Ah
oui, d'accord, voilà. Ok.
Donc là, tu t'installes complètement, puisqu'il y a aussi les restaurants donc dans tous les sites d'Espagne, et ça veut dire que tu déjeunes en terrasse.
Bien.
Où tu dînes d'ailleurs. Juste un petit détail, les différentes communautés autonomes, pour pallier au manque à gagner terrible pendant ces 2 mois et demi, en fait, la plupart offrent de l'espace public aux bars et aux restaurants. Par exemple, il y a des places de parking qui sont reconverties en terrasses, de okay. manière à ce que les établissements puissent travailler sur des espaces beaucoup plus grands.
Oui.
Et ainsi gagner un petit peu plus d'argent.
Tout à fait. Ce qui correspond donc à la densité de bars par rapport aux habitants et évidemment à tout ce manque à gagner qu'il y a eu durant donc ces 2 mois où on ne pouvait absolument pas.
On en avait parlé ensemble, mais là c'est confirmé. Il est dit qu'à Madrid et Barcelone, qui sont les deux grandes cités touristiques en plus, quand ça va réouvrir, il y a 35% des bars et des restaurants qui ne vont pas réouvrir la semaine prochaine.
C'est dingue, hein.
Déjà. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont déjà coulé pour cause de la quarantaine.
Ouais, parce qu'en fait, finalement, dans une espèce de dynamique où tu sens que ça reprend, bah, il y a malheureusement des morts annoncées de commerce, quoi.
ça va être énorme. Ça va être énorme. Hein. L'Espagne a vraiment connu la crise de 2008, qui était une crise économique absolument terrible, où tu voyais des commerces fermés avec du papier journal, etc., dans des grandes artères. Enfin, ça, on sentait qu'il y avait eu un désastre économique et la même chose en pire est prévue. Hein.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a énormément de commerces qui se relèveront pas de ça.
Bien. Voilà.
Donc,
bon.
On espère juste que l'été permette ici d'assurer ce qui est important pour eux, c'est qu'ils arrivent à avoir une saison touristique, un été et un automne touristique.
Bien sûr.
Notamment avec l'Allemagne et la France, qui sont les deux gros pays qui visitent l'Espagne.
Bien. Bah écoute, Fabien, merci pour ce direct qui était alors
que j'aurais aimé,
mais je savais pas trop s'il allait se faire. Bon, finalement, il se fait. Ce sera peut-être aussi notre dernier direct parce que je pense que d'ici quelques jours, tu vas certainement rentrer si tu peux.
Ah ouais, tout à fait. Bon. Ouais. Je mettrai fin à mon confinement.
Ton confinement et tu mettras aussi fin à ton rôle d'envoyé spécial pour RCC à Madrid.
C'est ça. Ce qui sera une bonne nouvelle parce que ça voudra dire qu'on reprendra un début de vie normale.
Tout à fait.
Même s'il faut faire très très attention. Et je le vois ici, on m'a dit que c'était beaucoup le cas à Calvi et c'est super bien. C'est que tout le monde doit porter le masque et faire vraiment attention. Parce que je vois ici que c'est vraiment annoncé comme la clé du succès du déconfinement. C'est de garder les distances de sécurité et le port du masque quand on croise des gens.
Tu l'as fait, hein, et j'ai eu la chance aussi de le faire. J'ai voyagé et j'ai visité Tokyo. Et c'est vrai qu'il y a 10-15 ans en arrière, quand j'y suis allé, je comprenais pas tous ces gens qui avaient des masques dans le métro, etc. Et en fait, quand on te dit, mais tu sais, les gens mettent un masque parce que ils sont malades et ils veulent protéger les autres, et ben finalement, nous aussi, on va y venir, hein. Cette crise,
même si c'est compliqué, c'est vrai que nous on s'en rend compte parce que quand on l'a ici dans l'heure de promenade, comme vous, on se rend compte que c'est difficile parce que tu as une sensation qui est pas très agréable.
C'est vrai. Super honnête, ça tient chaud.
Ça tient chaud, tu respires pas bien.
Si t'as des lunettes, ça fait de la buée.
Ouais, ouais, ça te la buée, les gens te reconnaissent pas, ça coupe l'essentiel de la vie sociale parce que tu croises quelqu'un que tu connais que tu reconnais jamais. Donc c'est vrai, bon, c'est au moins super important dans les endroits où il y a une forte densité
de
population et où on se croise. Après c'est sûr que à l'arrivée là tout seul, c'est pas très très utile. Quoi.
C'est vrai. Bah c'est d'ailleurs un peu ce qui en partie nous protège quand même, hein, par rapport à des grandes villes.
Tout à fait. Maintenant, il faudra voir les suites et voir comment ça évolue. Mais je pense que le mois de mai qui nous reste, il est important, comme le fait l'Espagne, d'être super prudent, même exagérément prudent. C'est du moins la logique qui est posée ici et que la prudence continue jusqu'à fin juin. Et d'après ce que je comprends, à fin juin, ça serait vraiment une libération sans contrainte. C'est vraiment le planning que s'est fixé l'Espagne et visiblement les autres pays européens.
Ouais. En tout cas, on sent que les lignes bougent. On sent que il y aurait peut-être une ouverture d'Orly finalement plus rapide que ce qui était prévu au départ, avec même des liaisons Paris-Calvi en avion. Donc voilà.
C'est indispensable. Voir des liaisons européennes parce que ici on parle beaucoup de l'Europe en Espagne et puisque l'Espagne est dépendante du tourisme européen et non pas intramuros, c'est-à-dire qu'ils se suffiront pas eux-mêmes,
bien sûr.
En étant 44 millions, ils comptent pas du tout là-dessus, ils comptent sur l'Europe à partir du 1er juillet. Donc les lignes européennes vraisemblablement vont s'ouvrir début juillet.
Bah c'est ce qui revient aussi d'un point de vue disons ici local, hein, notamment j'ai pu lire un article de Corse Matin où il y a quand même pas mal d'hôteliers et autres qui viennent évidemment, on serait heureux de recevoir des insulaires, mais ils disent que ça suffira pas, quoi.
Ça suffira pas. Et bon, surtout, je le vois d'un petit peu loin, hein, donc je sais qu'il y a un énorme débat et qui est compréhensible sur le sanitaire en Corse, mais on ne peut plus compréhensible, mais on parle de quelque chose qui se fait dans un mois et demi, c'est-à-dire début juillet, selon l'évolution de la maladie, c'est-à-dire qu'il y a des tas de si qui sont donnés à une possible évolution positive des transports, mais dans tous les cas, ça sera au niveau européen. Je voyais que la Grèce était prise pour exemple, etc. La Grèce aussi s'ouvrirait au 1er juillet sans contrainte. L'ensemble des pays, si le virus continue à baisser, vont s'ouvrir. Donc effectivement, s'il y a une deuxième vague, ça ne sera pas du tout le cas, mais il est prévu dans un mois et demi, les avions tournent tout ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire à 50%, c'est ce qui est annoncé, de leurs possibilités, puisque l'aérien ne va pas redémarrer tout de suite non plus. Donc il y a des grandes chances pour que tout soit fait, pour que ça redémarre, simplement parce que l'addition est impossible à payer.
C'est clair. Par
aucun pays, ni la France, ni l'Espagne, ni l'Italie, ni l'Allemagne ne peuvent se permettre de rester encore confinés sur eux-mêmes hein, plusieurs mois.
Évidemment.
C'est impossible.
Merci Fabien pour ce direct. Écoute, alors merci pour ce dernier direct.
Un plaisir Anto, écoute, merci pour ton émission, ça a été un plaisir de parler avec toi.
Voilà, mais on aura certainement l'occasion de se retrouver peut-être d'ici un mois et demi, peut-être pour que tu nous racontes ton expérience in situ.
Avec plaisir, voilà. Un plaisir et je me languis de vous retrouver, de retrouver mon Calvi.
Merci Fabien et merci pour cet appel un peu direct,
désolé,
on peut le dire.
Je suis désolé de t'avoir engueulé en rigolant.
Mais c'était sympa.
Comme on plaisante tout le temps. Non mais
ce qui est drôle, c'est qu'en fait au moment où j'ai commencé mon intervention, j'ai reçu donc ton message et j'ai commencé à le lire et je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans mes dires et puis finalement j'ai dit je vais le prendre en direct au moins. Ce sera fait. Je t'embrasse, à très vite. Merci.
À tous,
salut.
À très bientôt.
Ciao.